Rebonjour à chacun, chacune. Tout est à Dieu. Je vais de la rappeler. Et dans cette prière de David, Pedro, si tu mets la première slide, l'affichage, le petit écran. Toujours des problèmes, alors je ne sais pas toujours ce qui est affiché. C'est à moi, tout est à moi. Non pas une prétention, mais une affirmation de Dieu, telle que nous la rapporte la Bible et que nous avons un peu abordée dimanche dernier. Le monde et tout ce qu'il contient est à Dieu. Toutes les âmes sont à Dieu. Nos biens matériels, notre temps et nous-mêmes sommes à Dieu. Ce sont les points que nous avons évoqués la semaine dernière. Et ce matin, je propose de continuer avec d'autres considérations en lien avec cette vérité universelle. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie. Ô Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, gloire, grandeur, puissance et autorité avant tous les temps, maintenant et à jamais. Amen. Jude, versets 24-25. Jude, pour que vous le situiez, c'est un des demi-frères de Jésus, un des quatre fils que Marie et Joseph ont eu par la suite. Et son épître, sa lettre, toute courte, il n'y a qu'un chapitre, donc c'est pour ça qu'on ne dit même pas le numéro du chapitre. Il se situe dans le Nouveau Testament entre les lettres de Jean et l'Apocalypse. Et vous noterez que dans cette traduction assez littérale, il n'y a pas de verbe dans la partie principale de cette phrase. C'est fréquent dans le grec d'origine où le verbe « être » est souvent sous-entendu. Alors cette traduction rajoute « soit », S-O-I-E-N-T, comme si l'auteur exprimait une prière. Je trouve que ça ne va pas trop bien, ou ça n'avait pas trop sens de dire « à Dieu soit la gloire avant tous les temps ». Le passé ne se change pas, et personnellement, si on utilise le verbe « être », je mettrais plutôt au présent, pour expliciter l'affirmation de la réalité que ces versets présentent. « À Dieu sont gloire, grandeur, puissance et autorité, toujours, toujours, incluant maintenant ». Et d'autres traductions mettent ainsi « à Dieu appartiennent grandeur, puissance, autorité, depuis toujours, maintenant et pour toujours ». Oui, assurément, Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, et tout est à lui, depuis toujours et pour toujours. Tout est à moi, dit Dieu, et Jude dit en retour « oui, à toi, Dieu, sont gloire, grandeur, puissance et autorité. » Et très nombreux sont ceux qui, bien sûr, disent de même dans les Écritures. Tout est à moi, dit Dieu, et nous disons, nous aussi, en retour, c'est dans notre confession de foi, un des documents qui explique à tous les grandes lignes de ce que nous croyons. Un texte qui ne nous est pas exclusif, mais qui est commun, largement commun avec la plupart des églises, sinon toutes, normal. Nous sommes des millions à croire la même chose. La Confession de foi dit dans son premier article, intitulé « Le vrai Dieu », « Nous adorons un seul Dieu, l'unique en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Il est éternel, infini, immuable, tout-puissant, omniprésent, omniscient. Parfaitement sage, saint, juste et bon. Il est souverain sur toute chose. Il est esprit, il est lumière et vérité. Il est amour. Il est le créateur de toutes choses. À lui sont dus, au suprême degré, confiance, obéissance, reconnaissance, amour et louange. Tout est à moi, dit Dieu, et en retour, nous lui disons, oui, Dieu, À toi sont dues confiance, obéissance, reconnaissance, amour et louange. Et c'est sur cela que j'aimerais méditer un peu ce matin. Alors, des tas de gens, hein, artistes, stars, entre guillemets, sportifs, inventeurs, businessmen, personnages politiques, etc., recherchent, aimeraient en tout cas qu'on leur reconnaisse gloire, grandeur, puissance, autorité. Mais un seul le mérite. Bien plus, un seul les a, Dieu. Dieu seul font partie de ses attributs, de sa personne, de sa nature. Avant-hier, je suis allé à un enterrement, et apprenant que j'étais pasteur, un homme est venu vers moi, après, pour discuter un peu, et il m'a expliqué combien il se sentait avoir été manipulé dans sa jeunesse, dans le catéchisme qu'on lui avait fait, et on lui avait inculqué qu'il devait... Il devait mettre sa foi en Dieu, une vraie obligation. Mais sans explication, sans démonstration de la joie de connaître Dieu dans la vie, de la libération que le pardon amène, de l'espérance sereine que l'acquisition du salut permet, sans la vie abondante que le Saint-Esprit suscite, et sans démonstration d'amour ou d'une quelconque compréhension et respect de qui il était, lui, enfant, influençable et manipulable. Et depuis, je ne sais pas quel âge il avait, mais depuis probablement 60 ans, 65 ans, c'était toujours resté là, en travers dans sa gorge. Et la suivante, Pedro, la 2. À Dieu sont dus, au suprême degré, confiance, obéissance, reconnaissance, amour et louange. C'est vrai? Mais est-ce que ça se décrète? Est-ce que ça s'impose? Non. C'est une confession de foi, quelque chose à laquelle on adhère, quelque chose que l'on croit, que l'on décide de croire, après avoir compris, en tout cas après en avoir compris quelques tenants et aboutissants, les essentiels, le principal, après avoir connu. Commencez à connaître qui est Dieu. Ça ne se décrète pas, ça ne s'impose pas, ça se vit. Tout est à moi, dit Dieu. Mais comment aider les gens à le comprendre, à l'accepter, à se l'approprier, et donc à s'en réjouir et à le vivre ? Pas nécessairement facile, comme l'illustre cette rencontre et cet échange que j'ai eu. Mais je suis sûr que ce n'est pas en cherchant à l'imposer que ça aura de l'effet dans la vie des gens. Et je crois au contraire qu'un des éléments clés est effectivement plutôt la démonstration par le vécu de la personne qui transmet le message. Cohérence entre le dire et le faire. Cohérence entre le dire et l'être, ce sera certainement le meilleur témoignage, peut-être le seul véritablement valable. Et du coup, quelle est la réalité visible dans ma vie, de ma confiance, de mon obéissance, de ma reconnaissance, de mon amour et de ma louange, parmi bien d'autres choses, pour et envers Dieu? Je dirais même avec Dieu. Quelle est la réalité visible dans l'échange ou la relation ponctuelle ou régulière que j'ai avec l'autre, de mon amour, de ma compréhension, de mon écoute? J'avoue qu'à titre personnel, je me questionne plus souvent sur la pertinence de ce que je peux dire, sur la pertinence de l'Évangile même, par rapport aux besoins des gens, à leurs questionnements, à leur réalité, sur la pertinence de l'Évangile aujourd'hui. Je ferais peut-être mieux de réfléchir à la cohérence de mon témoignage de vie et de parole. L'Évangile, lui, est toujours pertinent, car c'est Dieu qui l'a inventé. Je peux dire ça, inventé. Alors que ma vie, même si c'est Dieu qui l'a créée, n'est pas toujours cohérente. Pas toujours vécue avec cohérence, en tout cas. Et vous ? Je ne vous regarde pas. Vous pouvez faire comme ça ou comme ça. À Dieu, la confiance. À Dieu, toute ma confiance. Est-ce le cas ? Il y a une expression que j'entends régulièrement, mais que j'aime pas. Celle qui dit que l'on doit avoir une confiance aveugle en Dieu. Je crois que c'est précisément le problème de ce que cet homme m'a partagé. Et la problématique ne reposait pas seulement sur une mauvaise pédagogie que l'on aurait améliorée depuis dans les écoles du dimanche. Mais je crois, sans pour autant me permettre de juger les personnes qui l'enseignaient, qui avaient probablement une certaine méconnaissance de Dieu et de sa parole. Je crois que nulle part on ne trouve de demande de confiance aveugle dans la Bible. Mais Dieu nous dit plutôt « Connais-moi, connais qui je suis, et mets donc ensuite ta confiance en moi. » Ou en d'autres termes, « Je me fais connaître à toi, je me révèle, et sur cette base, crois alors en moi. Mets ensuite ta foi en moi. » Confiance et foi sont en effet synonymes, même si bien sûr, foi a selon le dictionnaire une résonance plus religieuse. Mais pas de foi aveugle que l'on nous imposerait, ou même que Dieu exigerait de nous. Et pourtant lui, quelque part, il serait légitime à le faire. Dieu aurait légitimité à nous demander, à exiger de nous une foi aveugle. Mais non, ce n'est pas sa méthode, ce n'est pas son choix. Pas de foi aveugle, mais une foi complète en Dieu que je connais parce qu'il s'est révélé à moi. N'est-ce pas mieux ? N'est-ce pas totalement différent ? J'aime dire que la foi peut être un pas ou un saut dans l'inconnu, mais ce n'est pas un saut avec un inconnu. C'est avec Dieu qui doit être connu. La foi peut être un saut dans l'inconnu, mais ce n'est pas un saut avec un inconnu. C'est pas pour rien qu'on a la Bible. Pas pour rien que Dieu veut que la Bible soit transmise à tous, qu'elle soit traduite, qu'elle rejoigne chacun là où il est et là où il en est. C'est pour que chacun puisse croire et faire confiance à Dieu en toute connaissance de cause. Ou en tout cas dans la mesure de notre possibilité à connaître Dieu, bien sûr. Notre entendement humain reste limité. Et ce n'est pas pour rien que l'on dit sans cesse, que l'on encourage maintes fois à lire, à méditer, à étudier, à apprendre, à connaître cette parole de Dieu qu'est la Bible. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages, applique ton cœur à mon enseignement, car tu auras du plaisir à garder ces maximes au fond de ton cœur et les avoir à disposition de tes lèvres. Chaque instant, tu les auras à ta disposition. Pour que tu mettes ta confiance en l'Éternel, je vais t'instruire, toi aussi, aujourd'hui. Une instruction, une découverte biblique ou un approfondissement biblique, une écoute de Dieu qui aura pour conséquence le fait de mettre sa confiance en l'Éternel. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Connais Dieu et tu mettras ta confiance en lui. Connais Dieu et tu mettras ta confiance en lui. Moi, je suis convaincu que la plupart des gens ne font pas confiance en Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est par ignorance, Je pense qu'ils sont très rares ceux qui disent « Moi, je connais très bien Dieu, je connais son amour, je connais tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, mais je n'en veux pas. » Non, la plupart des gens, c'est parce qu'ils ont une fausse idée de Dieu, une fausse compréhension de qui il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il attend d'eux. Connais Dieu, et alors, j'en suis convaincu, pour la quasi-totalité des gens, ils mettront leur confiance en lui, en comprenant combien ils en ont besoin. Concernant la confiance ou les problèmes de confiance, alors je ne vais pas revenir sur les réflexions pratico-pratiques qu'on a pu faire semaine dernière. Je vous invite, pour celles et ceux qui n'ont pas entendu, de réécouter. Alors il n'est pas encore sur le site internet, parce que le site internet de l'Église est en migration technique, c'est ça ? Mais ça viendra dans peu de temps. Sinon, j'ai envoyé mes notes par mail. Et je prends quand même deux personnages bibliques en guise d'illustration de la confiance que l'on peut avoir en Dieu. Alors, vous allez peut-être penser que ce sont des cas un peu extrêmes. Ce n'est pas faux. Qui peut le plus, peut le moins. Alors, je l'espère que ces exemples sont pour nous source d'encouragement et de paix, de confiance. Alors, premier, c'est David. David, on en a parlé tout à l'heure. Peut-être qu'on se dit « Ah oui, le grand roi David !» Non, le petit roi David, celui qui a eu la sincérité d'exprimer tout haut ce que nous vivons souvent tout bas. Doute, épreuve, colère contre les méchants ou contre lui-même, péché qui le rongeait, épuisement, découragement, interrogation. Si vous lisez nombre des psaumes, vous verrez qu'il n'a pas voulu cacher ce qui pouvait tirailler ou tordre son corps, son cœur ou son esprit, mais également paix, joie, confiance dans le Seigneur. Confiance même dans les circonstances difficiles, et il a eu l'occasion d'apprendre cela, même si l'issue de ces circonstances lui restait inconnue. Psaume 116, verset 10, pour être précis, la paternité de ce psaume n'est pas certaine. C'est peut-être pas David, mais en tout cas, ça cadrerait bien avec David. Puis si ce n'est pas lui, ce n'est pas grave, la vérité énoncée reste vraie. J'avais confiance, même lorsque je disais « je suis plongé dans le malheur ». J'avais confiance, même lorsque je disais « je suis plongé dans le malheur ». David a souvent dû fuir et s'enfuir, et bien d'autres aussi. Nous, parfois également. Et pourtant, il peut écrire cela. Les circonstances difficiles, les épreuves, les malheurs ont-ils raison de notre confiance en Dieu ? Je ne l'espère pas. Mais si cependant c'est le cas, loin de moi l'idée de vous accabler. Au contraire, je ne peux que vous encourager à crier au secours à Dieu. Qui répondra ? Il répondra, c'est sûr. Peut-être que le moyen de secours sera nous, moi, quelqu'un ici. N'hésitez pas à venir nous trouver pour partager cela, le porter ensemble devant le trône de grâce de notre Dieu. Et pardon pour toutes les fois où je n'ai pas été présent, où l'Église n'a pas été présente comme elle aurait dû, comme vous l'auriez aimé, comme vous en auriez eu besoin, dans les temps de malheur en particulier. En tout cas, appeler Dieu au secours parce que ou quand on perd pied est de fait aussi un signe de confiance en lui, même si on n'a peut-être pas la lucidité à cet instant trop difficile de s'en rendre compte. Et le psalmiste le dit assurément après coup aussi. J'avais confiance, même lorsque j'y disais « je suis plongé dans le malheur ». Et quand bien même nous dirions « j'avais perdu confiance », c'est possible. Dieu était néanmoins toujours là, à nos côtés, et même nous portant, sans que nous nous en rendions compte peut-être. Dieu est le soutien de mon cœur, dit un chant que l'on entend quelquefois. Dieu est le soutien de ma foi et même l'auteur de ma foi. Il connaît ma fragilité, il ne la méprise pas. Oh non, il ne la méprise pas. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Et certains connaissent ça actuellement dans leur pays, dans leur environnement, parmi leurs proches. Fanfaronnade de la part de David ? Pas du tout. Certes, des fois plus facile à dire qu'à vivre, mais en grandissant dans la connaissance de Dieu, je le crois, il fera aussi grandir et affermir notre foi en lui. C'est aussi une grâce de notre croissance en lui par sa révélation et l'œuvre de son esprit en nous. C'est d'ailleurs aussi en substance ce que dit ce verset de Jude que j'ai lu en introduction. Dieu est celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie. Nous ne pouvons pas y arriver, mais Dieu oui. Nous ne pouvons pas y arriver, mais Dieu oui. Le deuxième personnage, Paul. Ah ouais, le grand apôtre. Non, Paul. En fait, ça veut dire petit. Il est aussi celui qui a maintes fois reconnu sa faiblesse, son caractère pécheur, sa conscience d'avoir été un persécuteur du Seigneur avant de se convertir, sa propension à l'orgueil. Si quelque chose était grand en lui, c'était avant tout la grâce du Seigneur. Ainsi, pour ce qu'il concerne, il écrivait « Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. » Là encore, peut-être qu'on se dit que c'est un exemple extrême. Mais pour le coup, peut-être nous aide-t-il aussi un peu à relativiser nos propres circonstances. Mais aussi et surtout comme Paul et ses compagnons de prison, à nous focaliser sur l'essentiel. Pour et au-delà de notre court passage terrestre, Dieu est digne de confiance. Dieu est digne de confiance plutôt que nous-mêmes. Parce que Dieu ressuscite les morts. Ça peut sembler décalé comme argument, mais cette vérité est toute la base de notre foi. La résurrection première de Jésus-Christ, puis viendra la nôtre. Et notre espérance n'est pas vaine du fait même de la réalité de la résurrection de Christ. Pour Paul, c'était sa force, sa paix, même quand il était persuadé que sa condamnation à mort allait être prochainement mise à exécution. À Dieu, toute ma confiance. Dans des circonstances exceptionnellement difficiles, mais aussi dans ma crainte du lendemain, aussi dans ma perplexité face à telle ou telle décision à prendre, aussi dans mon quotidien, quel qu'il soit. À Dieu, l'obéissance. À Dieu, toute mon obéissance. Est-ce le cas ? Bon, autant le point d'avant, sans être parfait, loin s'en faut, la confiance, je crois pouvoir dire que ce n'est pas mon point le plus faible. En tout cas, je n'ai pas l'impression. Et si votre perception est autre, vous pouvez venir me le dire. Autant pour ce point-là, obéissance. Et quoi que ça se voit peut-être moins, on l'a chanté, hein, Dieu y voit au-delà des apparences, Dieu y voit au profond du cœur. L'obéissance, je dois reconnaître qu'il m'arrive trop souvent d'être mauvais, d'échouer dans les grandes largeurs de péché. Heureusement, seules celles et ceux qui n'ont jamais péché pourraient me jeter les premières pierres. Obéissance, désobéissance, péché. La moindre chose non conforme à la volonté divine étant péché, ne serait-ce la moindre velléité passagère, l'ombre du soupçon du début d'une pensée, d'indépendance ou d'autonomie personnelle, par exemple, par rapport au Seigneur, sans même nécessairement commettre du mal, entre guillemets, c'est un péché. Et je suis disqualifié. Coupable et disqualifié. Ouf, non. En Christ, coupable et pardonné. Grâce à Jésus-Christ, coupable mais gracié. Oui, ouf, ouf. Pourtant, l'obéissance, l'histoire le montre, certainement le point sur lequel on a souvent insisté en priorité. Mon anecdote de tout à l'heure avec cet homme le montre aussi. Mais l'obéissance sans la grâce, c'est mort, impossible, peine perdue. Ce n'est que religion vouée à l'échec. Combien même on chercherait à obéir de tout cœur, en toute bonne foi, si je peux utiliser cette expression. Oui, 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 obéissez, obéissez, et vous serez agréable à Dieu, agréé par Dieu. Obéissez, suivez aussi scrupuleusement que possible tous ses préceptes, tous ses ordres, toutes ses interdictions, et vous passerez la barre de qualification. Peut-être, si Dieu est cool avec vous. C'est ce que disent toutes religions. Mais ça ne marche pas comme ça. On le sait, ça ne marche pas comme ça. Car dans cette logique religieuse, le niveau minimum d'entrée requis par Dieu, c'est la perfection. On le sait. Tenue correcte exigée ne suffira pas. Perfection exigée. Rien de moins, sinon pas d'accès à la sainteté de Dieu. Ça ne peut pas donc être le premier critère. Ça ne peut pas. Le premier, c'est lequel alors? On vient de le voir. La confiance. La foi. En Dieu, en Jésus le Sauveur, ayant pris la condamnation à ma place et m'ayant pardonné. Ouais, on sait, mais on répète un peu toujours la même chose, hein. Mais ça change tout. Ça change tout. Pedro, si tu mets la suivante. Obéissance, non plus pour obtenir, sans même parler de mériter, la faveur de Dieu, mais obéissance parce que j'ai obtenu la faveur de Dieu. Non plus pour obtenir, mais parce que j'ai obtenu. Obéissance parce que j'ai désormais envie de plaire à Dieu, mon Père, mon Sauveur, mon Seigneur, et parce que je sais que c'est ce qui fera que ma vie est épanouie, pas juste par obligation. Ça change tout. Ça change tout. Si vous êtes absolument fan d'obéissance, si vous voulez vraiment définir votre théologie avec obéissance en premier, c'est vrai que croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le premier acte d'obéissance dans son plan de salut. C'est requis de chacun, requis de tous. De fait, il faut effectivement obéir à Dieu en plaçant sa foi en Christ. Mais le risque en mettant le mot « obéissance » en premier, et je pense que l'on pourrait se focaliser à tort plutôt sur nous, notre accomplissement à avoir obéi, plutôt que sur le fait que c'est une grâce totale et uniquement une grâce, et grâce à Dieu. Après ce pas de foi avec le Sauveur connu, alors ensuite nous pouvons, Dieu nous en donne la capacité, et nous aimons, Dieu nous en donne la volonté d'obéir. Dieu nous en donne la capacité et Dieu nous en donne la volonté. Mais cette obéissance est sur la base, une autre base que l'imposition, une autre base que la religion. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. À comprendre, comme voulant dire, rien d'autre que le Seigneur Jésus, bien sûr. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ou une autre traduction, tout n'aide pas à grandir dans la foi. On le sait, le reproche principal contre la grâce, la compréhension pourtant évangélique, conforme à l'évangile de la grâce, est que ce serait un encouragement au péché. Pas du tout. Dire cela, c'est ignorer l'œuvre transformatrice de Dieu en nous. C'est ignorer le changement de cœur, d'identité, de valeur, de sens que Dieu opère aussi par son Saint-Esprit dès la nouvelle naissance. C'est aussi et encore pour cela que Jude écrivait, je le reprends encore, que Dieu est celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse sans reproche et exultant de joie. Nous ne pouvons pas y arriver, mais Dieu, oui. Cela fait aussi partie de cette confiance que nous avons en Dieu. À la fois confiance dans le fait qu'il nous a déjà fondamentalement et salutairement changés, et aussi qu'il continue à nous parfaire. Et à la fois confiance que si nous tombons encore parce que nous sommes encore faibles, alors en Christ nous sommes pardonnés et relevés. Et ainsi, dans tous les cas de figure, Dieu nous fera paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie. Dans tous les cas de figure, sans reproche. Soit parce que par pardon, nous sommes couverts par le sang de Christ, sacrifice parfait, nécessaire et suffisant. Soit parce que, à force de transformation et de sanctification de sa part, nous sommes arrivés à la stature parfaite de Christ, à sa ressemblance. Vous devinerez dans quel cas on sera à la fin de nos parcours terrestres. Et ça sera une vérité pour chacun et chacune d'entre nous, parce que ça dépend de Dieu. Et Dieu peut nous faire paraître en sa présence, sans reproche et exultant de joie. À Dieu, la reconnaissance, l'amour et la louange. À Dieu, toute ma reconnaissance, mon amour et ma louange. Est-ce le cas? Bien que conscient de toute notre faiblesse encore, de notre inconsistance, oui, je le crois, si nous mesurons un tant soit peu qui est Dieu, qui nous sommes, ce que Dieu a fait, en particulier pour nous, nous venons d'en évoquer et rappeler quelques aspects, alors nous ne pouvons qu'être profondément dans cette attitude en retour de reconnaissance, d'amour et de louange. Pourrait-il en être autrement? Le dictionnaire Littré a une liste de 12 sens. Enfin, j'ai changé de dictionnaire, hein, vous avez remarqué. Je monte en gamme. Pourtant, 12 sens au mot reconnaissance. Et je suis toujours très surpris et très déçu par les dictionnaires de ce que celle signifiant le souvenir affectueux d'un bienfait reçu. Cette reconnaissance-là n'est qu'en 11e position dans les sens qu'il donne. Pour eux, c'est l'essence militaire d'abord. On fait une reconnaissance de terrain, où on reconnaît. Ah, mais je t'ai reconnu, c'est de la reconnaissance. La reconnaissance comme un souvenir affectueux d'un bienfait reçu n'est que très bas dans la liste. Et dans le dictionnaire de l'Académie française, lui, il n'a que 4 définitions. C'est quand même en dernière position que se trouve celle du sens de la gratitude, sentiment d'obligation envers une personne à qui on sait gré d'un bienfait. Ça se passe de commentaires. Et je m'étonne plus que la reconnaissance soit si peu répandue en l'être humain et en nos sociétés. Si les gens se basent sur le dictionnaire pour la vivre, c'est sûr que ça ne va pas aider. Quelle tristesse. Dieu doit aussi donc nous apprendre la reconnaissance. Il a vraiment du boulot. Mais bien heureusement, à son égard, en considérant ce que j'étais, spirituellement mort, pécheur, perdu, où j'étais, errant dans une vie vide de sens, sinon un sens égoïste. Et où j'allais? Dans le mur. Désormais vivant, pardonné, sachant pourquoi et pour qui je vis, avec l'éternité en moi. Je l'espère, la reconnaissance ne peut être que première dans notre propre dictionnaire. Je ne peux que déborder de reconnaissance envers celui à qui je dois tout cela. Pas vous ? Mon amour en retour est certes bien faible, mais Dieu l'alimente de son propre amour et le fait déborder. Pour lui, pour moi, pour les autres. Ma louange aussi reste faible. Et si je grandis dans ma conscience que toute ma vie peut être, pourra être, en lui et par lui, louange et culte à Dieu, alors elle sera effectivement, petit à petit, louange et culte à Dieu, en et par ce que je dis, par ce que je fais, par ce que je pense. C'est un beau programme. Un beau programme. Que le Seigneur nous y aide aujourd'hui, demain, après-demain, chaque jour, pour sa seule gloire. Amen.